Quel est l'effet d'une plainte? C'est une question qu'on se pose de plus en plus, fatalement, pour peu qu'on daigne ou qu'on puisse la déposer, la plainte. C'est aussi une question à laquelle répond le roman, chez Balzac, comme chez Dickens, chez Molière, Kafka, chez Philippe Ross, chez Simenon, chez Édouard Louis. L'effet d'une plainte, avant même le procès qui parfois n'a jamais lieu, le fait qu'elle produise quelque chose, la plainte, qu'elle ait des répercussions, qu'elle soit déjà une action. En linguistique, on dit que quand dire c'est faire, la parole se fait performative. Et force est de constater, au fil de nos pages littéraires, que la plainte a toujours ce pouvoir de faire. Je pense soudain aux quelques 11 200 plaintes qui ont été déposées aux États-Unis contre l'entreprise Bayer, celle-là même qui a racheté Monsanto l'année passée. Des plaintes liées au glyphosate, qui est présent, vous le savez, dans le désherbant universel Roundup notamment. Des plaintes que l'entreprise ne cesse de tenter d'effacer, à coups de communiqués, de contre-arguments, mais qui ne s'effaceront pas. Le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand s'est effondré en bourse, perd de sa valeur, de son capital, et quelques soit l'issue de ces milliers de plaintes, force est de constater qu'elles ont agi, qu'elles ont un effet, pas suffisant pour qu'on supprime le désherbant pour l'instant, mais assez pour que l'entreprise soit mise au ban. Plaignez-vous.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui interroge les pouvoirs et les limites de la plainte dans son dernier livre, paru à la fin du mois dernier, paru en ce moment d'ailleurs, je dis des bêtises. Professeur et critique littéraire, elle fait partie des intellectuelles américaines les plus renommées et attaquées aussi. Ironie du sort, elle fait aujourd'hui l'objet d'une plainte elle aussi, ce qui rend son texte d'autant plus fascinant. Bonjour à Vital Ronel.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin.
Merci de m'accueillir.
Tout d'abord, quel peut être le pouvoir d'une plainte? Quel est son effet? Quel est son pouvoir?
Justement, c'est ça que je me demande, étant si soumise à une plainte, comme vous venez de dire. La plainte hante notre époque. Donc moi, j'essaie de nous mettre à l'écoute de cette culture du litige, du grief, et de la plainte, et explorer par là, c'est ça mon désir d'explorer, disons, les formes de contestation.
Par exemple, dans le cas du groupe Bayer qui a acheté l'entreprise Monsanto l'année dernière et qui depuis ne cesse de voir le cours de son action baisser, la plainte est efficace, elle agit, elle compte cette plainte.
Oui, d'une part. D'autre part, Bayer fait un mauvais trip en ce moment. Oui. Oui, parce que, de toute façon, je m'intéresse à l'histoire de la pharmacie, de Platon à Derrida, en passant par Flaubert, où la pharmacie s'est trouvée, l'hôte de la bibliothèque, et renvoie aux pensées sur les jouissances destructrices, et c'est que c'est une espèce de généalogie, pour employer ce mot, de Bayer qui a au début qui se servit d'héroïne, dans l'aspirine, et l'héroïne venait du mot guerrier, de heroisch en allemand. Et d'autre part, lorsqu'on pense au penseur Ernst Jünger, il a dit que c'était la catastrophe, le moment où l'aspirine était introduite dans le monde, parce que désormais, il n'y aurait plus d'hommes, des vrais machistes, parce qu'une petite mal à la tête assommait tout le monde, et c'était la fin du monde pour lui. Donc, Bayer, il y a peut-être une histoire qui demande sa revendication là, avec ces monstres de Monsanto qui s'occupe de la pesticide, l'empoisonnement. Et c'est quoi, c'est ça la question qui se pose, c'est quoi cette fusion entre une entreprise qui prétend s'intéresser à la guérison, qui se met avec, fatalement, parce que ça marche pas, évidemment, d'aucun point de vue, avec une entreprise vraiment terrible et qui est responsable déjà de l'agent orange.
Et qui utilise le glyphosate. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la plainte à Vital Ronel. En quoi la plainte est-elle, pour reprendre les mots que vous employez de votre intitulé, un trait essentiel des conditions de notre bien-être? Pourquoi?
Mais justement, j'essaie de savoir s'il s'agit d'un bug ou d'un trait essentiel. Et donc, je fais une espèce d'histoire spéculatrice spéculative de la plainte. Parce qu'il y a aussi des grandes célébrités bibliques qui sont connues pour leur plainte. Il y a les figures emblématiques de Jérémie, par exemple, ou de Job, qui a inventé une forme de contestation, une forme de négation, qui accepte le monde. Donc, je me demande si la plainte n'est pas une manière de garder en vie quelque chose.
Alors, vous dites quand même qu'il y a deux types de plaintes, une plainte noble et une plainte décadente. Qu'est-ce que vous appelez une plainte décadente?
Alors, d'une part, j'essaie de voir comment on peut transvaluer la plainte, parce que je suis une bonne Nietzschienne, c'est-à-dire qu'il faut trouver les lieux où ça s'écrase contre un mur déplorable, et aussi des possibilités de protestation, de dire malgré l'impossibilité, l'exaspération du dire. C'est-à-dire que il y a des plaintes qui malgré tout sont les hôtes d'une vitalité et qui font au moins un effort réparateur par rapport au monde. D'autre part, il faut croire qu'on a droit à quelque chose lorsqu'on se permet de se plaindre. Il y a des gens qui n'ont pas droit à se plaindre.
Et il y a des plaintes décadentes.
Les plaintes décadentes, c'est par exemple, je m'intéresse beaucoup aux plaintifs chroniques, narcissiques, des gens qui lâchent pas, qui n'ont pas pu grandir, par exemple, ils ont une espèce de déchirement dont ils se remettent pas, et donc ils essaient de faire payer, de se venger sur le monde.
Alors comment expliquer que ces plaintes décadentes, elles prennent tant de place aujourd'hui? Pourquoi il y en a autant à Vital Ronel?
Justement, c'est aussi un appel, un cri, une marque de l'insuffisance de l'être, si je peux le dire en simplifiant.
C'est dangereux pour nos démocraties, à votre avis?
C'est les deux. C'est-à-dire que d'une part, il y a le plénicheur en chef, Donald Trump, qui se plaint de tout et de tous. Et ça, c'est vraiment, il nous fait un spray toxique d'une espèce de pathologie masculiniste. Et ça, c'est très dangereux. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas, d'ailleurs, à se plaindre. C'est destructeur. C'est destructeur, c'est puéril. Et bon, vous connaissez mieux que moi les qualités de cet être, cette ordure.
Disons les traits de caractère, Vital Ronel. Je le disais en début d'émission, vous faites l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Votre affaire est en cours d'instruction, ce qui vous empêche de vous exprimer sur ce point précis. En revanche, ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette affaire, elle surgit dans un contexte particulier, qui est celle du mouvement MeToo. Quelle a été votre implication à vous dans ce mouvement? Vous êtes engagé?
C'est une histoire affligeante pour moi parce qu'évidemment, je ne suis pas contre MeToo, au contraire, bien au contraire. Mais dans chaque révolution ou guerre, il y a des dommages collatéraux et moi, je me trouve, je crois, comme un tel déchet, disons.
Vous diriez que ce mouvement a pu avoir effectivement des effets pervers, des effets inattendus, hormis d'ailleurs votre cas personnel?
Ah, il n'y a pas de hors de mon cas personnel pour moi, non. Mais franchement, oui, ça s'est très un peu susceptible à la pervertibilité. Il y a des excès, il y a maintenant vraiment des attaques qui sont un peu... je ne sais pas, il s'agit de quelque chose qui appartient à une culture quand même bien américaine, c'est-à-dire qu'il y a des vagues, des purifications astringentes, comme dirait Philip Roth. Il y a ces rites où on essaie de purifier quelque chose, et ça, comme on sait, est toujours dangereux et manque d'une attitude critique qui pourrait peut-être voir les choses dans leur subtilité, difficulté, les histoires de transfert et contre-transfert. En même temps, c'est vraiment nécessaire de tourner la page des masculinités toxiques et trop empoisonnant.
Celle qui est empoisonnante dans cette émission, peut-être que là vous la connaissez, ma chère Avital, elle est connue comme le loup blanc. Il vaut mieux pas trop s'en approcher, c'est la culture. Et son actualité mauvaise, complotiste et cruelle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 11 avril?
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something...
Une projo a réveillé les morts. The Dead Don't Die, le nouveau film plein de zombies de Jim Jarmusch, a été choisi pour faire l'ouverture du Festival de Cannes le 14 mai prochain. Il sera projeté en première mondiale pour une entrée en compétition des plus flippantes. Un choix cohérent au vu du casting délirant réuni devant la caméra de Jarmusch, Bill Murray, Adam Driver, Chloé Sevigny, Tilda Swinton et même Tom Waits, Rizé, Selena Gomez et Iggy Pop, rock'n'roll.
Je suis l'homme à tête de chou.
La grande sculptrice française Claude Lalanne est morte hier. Elle avait 95 ans avec son mari François-Xavier Lalanne, disparu en 2008. Elle avait formé pendant près de 60 ans le tandem Lalanne, reconnu pour son art baroque, poétique, fleuri. On se souvient notamment de sa célèbre sculpture L'homme à la tête de chou qui avait inspiré Gainsbourg, son album Concept, et on lui doit aussi la série des Pommes-Bouches, dont la plus célèbre trône, toute d'or recouverture Park Avenue, à New York. Salut l'artiste. Spotify, pas très chic, le fondateur du groupe Chic, Nile Rodgers, et une douzaine d'artistes viennent de publier une lettre ouverte à l'attention de Spotify via le site du magazine Billboard. « Vous nous avez utilisés », écrivent-ils, dénonçant les pratiques de la plateforme de streaming, notamment celles liées au Copyright Royalty Board, une réglementation qui est censée permettre aux artistes de percevoir plus de royalties, mais que Spotify conteste, tout comme Google, Pandora et Amazon, unlike.
Je peux en avoir encore un peu.
Non, Obélix, non.
Oh ben ça c'est pas juste.
Et c'est Repartix. Le 38e album d'Astérix se dévoile. Hier, on a appris qu'il s'appellera La fille de Vercingétorix et qu'il sortira le 24 octobre prochain. Tiré à 5 millions d'exemplaires, soit le plus gros tirage du monde francophone, il mettra en scène la fille du célèbre chef Averne, venu se réfugier dans les villages de nos irréductibles héros gaulois pour fuir des légionnaires romains. Ce sera la quatrième fois qu'une femme est le personnage central des aventures d'Astérix et Obélix. Et ça, c'est fantastique, ça. Et l'intellectuelle américaine Avital Ronell, invitée de Boomerang ce matin pour La Plainte, son nouveau livre. Pourquoi, Avital, la parole de celui ou de celle qui se plaint est-elle si souvent présentée comme suspecte? Pourquoi est-ce que le plaignant est souvent perçu comme coupable d'avoir brisé un silence qu'il aurait dû maintenir? Pourquoi la plainte dérange, en fin de compte?
D'une part, la plainte n'est pas polie, n'est pas élégante, n'a pas une... histoire orgueilleuse. Donc, comme le dit le philosophe Lacoulabarthe, Philippe Lacoulabarthe, un ami, il dit qu'il s'agit là du non exalté. Il n'y a pas de... Donc, ça échoue, ça connaît sa propre échec, c'est quelque chose qui marque et est marqué à la fois par son propre insuffisance. Et la personne, souvent, les personnes qui se plaignent sont des femmes, des enfants. Est-ce qu'un être souverain se plaindrait? Dans les pièces de Shakespeare, c'est seulement au moment où le souverain perd ses pédales qu'il ose, qu'il pense à se plaindre.
Oui, c'est une affaire de pouvoir, effectivement, de domination. Dans ce livre, vous ne manquez pas d'interroger les raisons qui toute votre vie vous ont fait écrire sur certains sujets plutôt que d'autres. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur la plainte à Vital Ronel?
Justement, je suis entourée par des gens qui se plaignent tout le temps. Et ça me fatigue. C'est une espèce de désordre auto-immunitaire, social. Et donc, j'ai commencé par... c'est parce que je suis toujours à l'écoute de la playlist de Goethe, par exemple. Et lui était très intéressé par la plainte et les effets nocifs de ceux qui osent se plaindre. Par exemple, il n'avait rien contre le, moralement parlant, contre le suicide de Werther. Mais en même temps, il a dit que si quelqu'un se plaint, c'est ça la mort de notre socialité.
Oui, mais on se plaint tous, tout le temps. Vous, par exemple, quels sont les premiers sujets sur lesquels vous ayez commencé à vous plaindre quand vous étiez petite?
Oui, non, pour moi, c'est même une façon d'établir la socialité. Et j'ai des amis à Buenos Aires qui m'ont dit on ne peut pas commencer une conversation sans se plaindre de ses amants, de ses parents, de sa vie. C'est une espèce de donner à l'autre son malheur pour qu'on puisse commencer à voir la singularité de l'autre. Donc c'est une espèce de... On s'expose comme quelqu'un d'appauvri.
Mais vous, personnellement, à Vital Ronel?
Je n'ai rien à me plaindre. Non, je me plains... pour les autres, plutôt que pour moi-même.
Savez-vous ce que c'est que d'être une fille, d'être la cible d'insultes corrosives à longueur de journée, d'avoir à lutter en permanence contre l'insolence, de vous éreinter, à faire preuve, à faire vos preuves, à vous dépasser, de compenser, de faire toujours plus et toujours mieux, et finir exténuée par vous vider complètement, de sorte que vous ne puissiez plus vous plaindre? C'est ce que vous écrivez dans ce livre. En quoi être une fille peut-il apparaître comme une raison légitime de se plaindre à Vital Ronel?
Je ne sais même pas si on a le droit à se plaindre, mais...
En tant que femme, vous voulez dire?
Oui, oui, mais disons que pour Hegel, par exemple, la femme, bon, à partir d'Antigone, c'est l'ennemi de la communauté. Pour toute la métaphysique, la femme, la fille ne peut pas se faire des amis. C'est pas une amie, c'est toujours sans souplesse dialectique l'ennemi. Ou au mieux l'ironie de la communauté.
Ça veut dire qu'elle est un bouc émissaire, somme toute.
Elle est tout prête pour l'être, oui.
Quel genre de bouc émissaire est-ce que vous êtes, vous, Vital Ronel, vous qui, à vous lire, êtes toujours parvenu à produire une rage primale sur les autres, venant des autres plutôt?
Oui, je semble coproduire des rages primales, c'est vrai, autour de moi. Et je ne sais pas si c'est moi qui serai l'origine des rages qui se manifestent autour de moi, ou que en tant que hystérique, j'invite, j'encourage les rages. C'est une forme de protestation aussi. Je ne suis pas sûre pourquoi ça m'arrive. Évidemment, je suis un peu par rapport aux collègues à l'université, par rapport aux êtres humains et inhumains. Je suis un peu plus audacieuse que les autres. J'ai des qualités qui sont vraiment sublimes pour ma candidature en tant que bouc émissaire de l'année. C'est-à-dire, on croit que je suis juive, femme, queer, quoi d'autre? Je ne sais pas, toutes ces qualités-là, et j'invente beaucoup. Hélène Cixous m'a dit, non, je t'ai pas, j'ai pas dit que tu es une, que tu mentes. Je dis simplement que tu inventes. Donc, j'ai l'impression que, à part le fait que tout le monde semble avoir une espèce d'envie de pénis, lorsqu'il s'agit de moi, je dirais que je me base sur et je me modèle sur des lignages, des modèles allemandes, subversives, américaines, etc., etc. Et je suis un DJ de mon être.
Comment on fait, Avital Ronel, DJ de votre être, pour vivre avec le malaise qu'on provoque, pour vivre avec la désapprobation, avec la défiance, avec
Qu'est-ce
la haine.
Qu'est-ce que vous me racontez? Quelle désapprobation? Tout le monde m'adore. C'est quoi cette histoire?
C'est difficile.
Qu'est-ce que je dois...
De vivre avec ça. Comment on fait, surtout? Quels sont...
Ça m'étonne que je suis toujours en vie par rapport à ça. En même temps, si Dieu m'est appelé... Et comme Job ou même Jérémie, parce que parfois il m'arrive de me plaindre. Non, c'est pas facile, mais c'est un mystère aussi. On sait pas pourquoi on trouve une certaine résilience par rapport aux désapprobations. En même temps, je l'ai cherché, pas pour cette histoire dont on a fait allusion, où il s'agissait des allégations sans preuve, sans évidence. Là, tout le monde peut se faire accuser et on a tous lu Kafka. Donc là, je me suis trouvée coincée dans un récit de Kafka et je voudrais en sortir un jour, peut-être ici même. Mais c'est pas facile. En même temps, j'ai l'habitude depuis mon enfance de provoquer, de me trouver... même en enfant controversiel.
On va reparler de tout ça, de ce fascinant livre, Avital Ronel, juste après Ben Harper, Like a King, 1994, sur l'album Welcome to the Cruel World, France Inter, Avital Ronel.
It has changed for the best. You better.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors on est quelque part entre la grande prêtresse, Jacques et le haricot magique, et l'ibis sacré avec ses yeux perçants, qui darde sous ses petites lunettes, sa façon de tendre le menton vers l'avant comme si elle s'apprêtait à vous picorer les joues, et son cheveu noir de jais avec son foulard japonais violet noué autour de la tête, on dirait un gros nœud, l'intellectuel Avital Ronel, invité de Boomerang ce matin pour La Plainte aux éditions Max Milo, un livre dans lequel il est beaucoup question de langue. Et je me suis posé la question, dans quel environnement linguistique qu'est-ce que vous avez baigné, Avital ? Parce que vous parlez français, on l'entend, mais je crois qu'à l'origine, vous êtes une germanophile exaltée. Par quel hasard est-ce que vous êtes tournée vers l'allemand, par exemple ?
C'est-à-dire que ma première langue, c'était l'hébreu. Et j'étais tellement fortunée d'être la fille des juifs allemands. Donc... il y a toutes sortes de contradictions et c'était des malheurs. D'une part, c'était une façon d'essayer de restituer à mes parents ce qu'ils ont perdu et des lieux d'où ils étaient expulsés. D'autre part, c'était une langue interdite, verboten.
Et vous dites, et c'est passionnant, hein, que l'allemand est la langue de la plainte et de l'accusation. Pourquoi ?
D'une part, c'est fourni par la langue elle-même, parce qu'on dit « klage » pour la plainte, et « anklage », c'est une accusation. Donc, c'est un langage qui, une langue qui semble s'accuser elle-même, et il y a ceux qui disent que l'Allemagne a produit de la musique tellement importante et belle, justement pour se défendre contre cette langue de l'accusation et qui est très dure par rapport à l'énonciation. Bon, ça, c'était trop vite dit. Il faudrait étudier avec moi pendant quelques années pour comprendre ce que j'essaie de dire.
En tout cas, c'est pas innocent de choisir l'allemand, parce que vous investissez une langue qui, pendant de très nombreuses années, après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, a été honnie et délaissée par beaucoup d'intellectuels, y compris par des intellectuels allemands. D'ailleurs, il y avait une forme de dissidence chez vous à choisir l'allemand, Avital Ronel.
Oui, non seulement personnel, parce que pour mes parents, c'était une langue interdite et effacée, donc et désavouée, donc il fallait absolument que je m'y attache. D'autre part, il y a une certaine jouissance à faire semblant d'être accueilli par cette langue qui n'est pas la mienne. Aucune langue, d'ailleurs, n'est pas la mienne. Mais là, il y a une espèce d'aliénation jouissive.
Parlant d'aliénation jouissive, c'est en français que vous avez choisi de nous lire un texte que vous avez écrit pour l'occasion. Et c'est un texte qui concerne les amis, se faire des amis, making friends, en anglais. C'est le titre que vous avez bien voulu nous donner. Je ne sais rien de ce texte et j'aimerais bien que vous nous le lisiez. Avital Ronel.
Merci. Il n'est pas aisé de se faire des amis. « Hey, you guys, where you at ?» disait Hölderlin. « Ah, je sais, je sais. » Pluraliser l'ami unique est souvent la source de problèmes, car à combien d'amis a-t-on droit ? Multiplier l'amitié jusqu'à la quasi-ordre est répugnant pour Aristote. Si vous avez une surpopulation d'amis, vous ne pouvez pas prétendre à l'amitié. Mais trop, c'est à partir de combien ? Se demande Derrida. L'amitié ouvre les chronologies, elle vous fait entendre l'horloge atomique de la finitude. Pour Nietzsche, l'ami était l'avenir. Même les plus petits se font des amis, entrent et sortent des premiers stades de l'intimité et du jeu. font l'expérience stupéfiante de la rupture. Certains d'entre nous, timides et réticents, n'ont pas évolué et jouent encore silencieusement à la poupée, nos amis pour de faux. Je me demande si je suis capable d'avoir un ami. Je me construis une famille imaginaire à laquelle je m'attache. Au moins, j'ai l'air de m'en tenir au vocabulaire de mari et femme, frère et sœur. Je tiens bon, même de façon régressive, et je m'accroche à ces familialismes répudiés que j'ai sérieusement contestés. Mais c'est quoi mon problème? Ah, le compte d'amitié offshore. Je pense à cette espèce d'ami imaginaire dont s'entoure l'interlocuteur comme une équipe de rêve intérieur. L'ami comme fantasme, comme fiction de cette personne à qui l'on s'adresse, lecteur infatigable de ses propres exploits, de ses recoins les plus intimes, de ses désarticulations persistantes.
Merci, Avital Ronel. Vous avez un ami en face de vous aujourd'hui.
Enfin !
Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre dernier livre, La Plainte, est publié dans la collection Voix Libre des éditions Max Milo, dans une traduction de Vincent Broca et Stéphane Van der Hage. C'est un très beau livre. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours. Ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes.
Les Innocents sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Ah, Les Innocents, c'est toute mon adolescence. Salut Augustin,
salut
à
Sonia.
Demain.
À demain.